Pierre Loti, Les Désenchantés, première partie. André Léry, romancier connu, dépouillait avec lassitude son courrier un pâle matin du printemps au bord de la mer de Biscaye, dans la maisonnette où sa dernière fantaisie le tenait à peu près fixé depuis le précédent hiver. « Oh, beaucoup de lettres ce matin, soupirait-il, trop de lettres. » Il est vrai, les jours où le facteur lui en allait le moins, il n'était pas content non plus, se croyant tout à coup isolé dans la vie. Lettres de femmes, pour la plupart, les unes signées, les autres non, apportant à l'écrivain l'encens des gentilles adorations intellectuelles. Presque toutes commençaient ainsi. Vous allez être bien étonné, monsieur, en voyant l'écriture d'une femme que vous ne connaissez point. André souriait de ce début. Étonné, oh non, depuis longtemps il avait cessé de l'être. Ensuite, chaque nouvelle correspondance, qui se croyait généralement la seule au monde assez audacieuse pour une telle démarche, ne manquait jamais de dire « Mon âme est une petite sœur de la vôtre. Personne, je puis vous le certifier, ne vous a jamais compris comme moi. » Ici, André ne souriait pas, malgré le manque d'imprévu d'une pareille affirmation. Il était touché, au contraire. Et du reste, la conscience qu'il prenait de son empire sur tant de créatures, éparses et à jamais lointaines, la conscience de sa part de responsabilité dans leur évolution, le rendait souvent songeur. Et puis, il y en avait, parmi ces lettres, de si spontanées, si confiantes, véritables cris d'appel, lancés comme vers un grand frère, qui ne peut manquer d'entendre et de compatir. Celles-là, André Léry les mettait de côté, après avoir jeté au panier les prétentieuses et les banales. Il les gardait avec la ferme intention d'y répondre. Mais, le plus souvent, hélas, le temps manquait et les pauvres lettres s'entassaient pour être noyées bientôt sous le flot des suivantes et finir dans l'oubli. Le courrier de ce matin en contenait une timbrée de Turquie, avec un cachet de la poste où se lisait, net et clair, ce nom toujours tremblant pour André, Stamboul. Stamboul, dans ce seul mot, quel sortilège évocateur! Avant de déchirer l'enveloppe de celle-ci, qui pouvait fort bien être tout à fait quelconque, André s'arrêta, traversé soudain par ce frisson, toujours le même et d'ordre essentiellement inexprimable, qu'il avait éprouvé chaque fois que Stamboul s'évoquait à l'improviste du fond de sa mémoire, après des jours d'oubli. Et comme, déjà si souvent en rêve, une silhouette de ville s'esquissa devant ses yeux, qui avait vu toute la terre, qui avait contemplé l'infinie diversité du monde, la ville des minarets et des dômes, la majestueuse et l'unique, l'incomparable encore, dans sa décrépitude sans retour, profilée hautement sur le ciel, avec le cercle bleu de la Marmara fermant l'horizon.
Une quinzaine d'années auparavant, il avait compté, parmi ses correspondantes inconnues, quelques belles désœuvrées des harems turcs. Les unes lui en voulaient, les autres l'aimaient avec remords, pour avoir compté dans un livre de prime jeunesse son aventure avec une de leurs humbles sœurs. Elle lui envoyait clandestinement des pages intimes en un français incorrect, mais souvent adorable. Ensuite, après l'échange de quelques lettres, elle se taisait et retombait dans l'inviolable mystère, confuse à la réflexion de ce qu'elle venait d'oser, comme si c'eût été un péché mortel. Il déchira enfin l'enveloppe timbrée du cher là-bas, et le contenu d'abord lui fit hausser les épaules. Ah non, cette dame-là s'amusait de lui, par exemple. Son langage était trop moderne, son français trop pur et trop facile. Elle avait beau citer le Coran, se faire appeler Zaïdée, Hanoum, et demander réponse poste restante avec des précautions de peau rouge en maraude, Ce devait être quelque voyageuse de passage à Constantinople, ou la femme d'un attaché d'ambassade, qui sait, ou à la rigueur, une levantine éduquée à Paris. La lettre, cependant, avait un charme qui fut le plus fort, car André, presque malgré lui, répondit sur l'heure. Du reste, il fallait bien témoigner de sa connaissance du monde musulman et dire avec courtoisie toutefois, « Vous, une dame turque ?»« Non, vous savez, je ne m'y prends pas. » Incontestable, malgré l'invraisemblance, était le charme de cette lettre. Jusqu'au lendemain où, bien entendu, il cessa d'y penser, André eut le vague sentiment que quelque chose commençait dans sa vie, quelque chose qui aurait une suite de douceur, de danger et de tristesse. Et puis aussi, c'était comme un appel de la Turquie à l'homme qu'il avait tant aimé jadis, mais qui n'y revenait plus. La mer de Biscaye, ce jour-là, ce jour d'avril indécis, dans la lumière encore hivernale, se révéla tout à coup d'une mélancolie intolérable à ses yeux. Mer pâlement verte, avec les grandes volutes de sa houle presque éternelle, ouverture béante sur des immensités trop infinies qui attirent et qui inquiètent. Combien la Marmara, revue en souvenir, était plus douce, plus apaisante et endormeuse, avec ce mystère d'islam tout autour sur ses rives. Le pays basque, dont il avait été parfois épris, ne lui paraissait plus valoir la peine de s'y arrêter. L'esprit du vieux temps, qui, jadis, lui avait semblé vivre encore dans les campagnes pyrénéennes, dans les antiques villages d'alentour, même jusque devant ses fenêtres, là, dans cette vieille cité de Fontarabie, malgré l'invasion des villas imbéciles, le vieil esprit basse, non, aujourd'hui, il ne le retrouvait plus. Oh, là-bas, à Istanbul, combien d'avantages il y avait de passé d'anciens rêves humains, persistant à l'ombre des hautes mosquées, des cimetières où les veilleuses à petites flammes jaunes s'allument le soir par milliers pour les âmes des morts. Oh, ces deux rives qui se regardent, l'Europe et l'Asie, se montant l'un à l'autre des minarets et des palais tout le long du Bosphore, avec de continuels changements d'aspect au jeu de la lumière orientale. Auprès de la féerie du Levant, quoi de plus morne et de plus âpre que ce golfe de Gascogne? Mais comment donc y demeurait-il au lieu d'être là-bas? Quelle inconséquence de perdre ici les jours comptés de la vie, quand là-bas était le pays des enchantements légers, des griseries tristes et exquises par quoi la fuite du temps est oubliée. Mais c'était ici, au bord de ce golfe incolore, battu par les rafales et les ondées de l'océan, que ses yeux s'étaient ouverts au spectacle du monde. Ici que la conscience lui avait été donnée pour quelques saisons furtives. Donc, les choses d'ici, il les aimait désespérément quand même, et il savait bien qu'elles lui manqueraient lorsqu'il était ailleurs. Alors, ce matin d'avril, André Léry sentit une fois de plus l'irrémédiable souffrance de s'être éparpillé chez tous les peuples, d'avoir été un nomade sur toute la terre, s'attachant ça et là par le cœur. Mon Dieu, pourquoi fallait-il qu'il eût maintenant deux patries, la sienne propre, et puis l'autre, sa patrie d'Orient? Un soleil d'avril, du même avril, mais de la semaine suivante, arrivant tamisé de ses stores et de mousseline dans la chambre d'une jeune fille endormie. Un soleil du matin apportant même à travers les rideaux, des persiennes, des grillages, cette joie éphémère et cette tromperie éternelle des renouveaux terrestres, à quoi se laissent toujours prendre depuis le commencement du monde les âmes compliquées ou simples des créatures, âme des hommes, âme des bêtes, petites âmes des oiseaux chanteurs. Au dehors, on entendait le tapage des hirondelles récemment arrivées et les coups sourds d'un tambourin frappé au rythme oriental. De temps à autre, des beuglements, comme poussés par de monstrueuses bêtes, s'élevaient aussi dans l'air. Voix des paquebots empressés, cris des sirènes à vapeur, témoignant qu'un port devait être là, un grand port affolé de mouvements. Mais ces appels des navires, on les sentait venir de très loin et d'en bas, ce qui donnait la notion d'être dans une zone de tranquillité, sur quelques collines au-dessus de la mer. Élégante et blanche, la chambre où pénétrait ce soleil et où dormait cette jeune fille. Très moderne, meublée avec la fausse naïveté et le semblant d'archaïsme qui représentait encore cette année-là, l'année 1901. L'un des derniers raffinements de nos décadences et qui s'appelait l'Art Nouveau. Dans un lit laqué de blanc, où de vagues fleurs avaient été esquissées, avec un mélange de gaucherie primitive et de précision japonaise, par quelques décorateurs en vogue de Londres ou de Paris, la jeune fille dormait toujours. Au milieu d'un désordre de cheveux blonds, tout petit visage, d'un ovale exquis, d'un ovale tellement pur qu'on eût dit une statuette en cire, un peu invraisemblable pour être trop joli, tout petit nez aux ailes presque trop délicates, imperceptiblement courbé en bec de faucon, grands yeux de Madone et de très longs sourcils inclinés vers les tempes comme ceux de la Vierge des douleurs. Un excès de dentelle, peut-être aux draps et aux oreillers, un excès de bagues étincelantes aux mains délicates, abandonnées sur la couverture de satin. Trop de richesse, eût-on dit chez nous, pour une enfant de cet âge. À part cela, tout répondait bien autour d'elle aux plus récentes conceptions de notre luxe occidental. Cependant, il y avait aux fenêtres ces barreaux de fer et puis ces quadrillages de bois, choses scellées, faites pour ne jamais s'ouvrir, qui jetaient sur cette élégance claire un malaise, presque une angoisse de prison. Avec ce soleil si rayonnant et ce délire joyeux des hirondelles au dehors, la jeune fille dormait bien tard. Du sommeil lourd où l'on verse tout à coup sur la fin des nuits d'insomnie, et ses yeux avaient un cerne, comme si elle avait beaucoup pleuré hier. Sur un petit bureau laqué de blanc, une bougie oubliée brûlait encore, parmi des feuillets manuscrits, des lettres toutes prêtes dans des enveloppes ou monogrammes dorés. Il y avait là aussi du papier à musique, sur lequel des notes avaient été griffonnées, comme dans la fièvre de composer. Et quelques livres traînaient parmi de frêles bibelots de Saxe. Le dernier, de la comtesse de Noailles, voisinant avec des poésies de Baudelaire et de Verlaine, la philosophie de Kant et celle de Nietzsche. Sans doute une mère n'était point dans cette maison pour veiller aux lectures, modérer le surchauffage de ce jeune cerveau. Et, bien étrange, dans cette chambre où n'importe quelle petite parisienne très gâtée se fût trouvée à l'aise, bien inattendu au-dessus de ce lit laqué de blanc, une inscription en caractères arabes s'étalait à la place même où chez nous on attacherait peut-être encore le crucifix. Une inscription brodée de fil d'or sur du velours vert et myrrhe, un passage du livre de Mahomet aux lettres enroulées avec un art ancien et précieux. Des chansons plus éperdues que commençaient ensemble deux hirondelles effrontément posées au rebord même de la fenêtre firent tout à coup s'entr'ouvrir de grands yeux dans le si petit visage, si petit et si jeune de contour. Des yeux aux larges prunelles d'un brun vert qui, d'abord indécis et effarés, semblait demander grâce à la vie, supplier la réalité de chasser au plus tôt quelque intolérable songe. Mais la réalité, sans doute, ne restait que trop d'accord avec le mauvais rêve, car le regard se faisait de plus en plus sombre à mesure que revenait la pensée, le souvenir. Et il s'abaissa même tout à fait comme soumis sans espoir à l'inéluctable, lorsqu'il eut rencontré des objets qui probablement étaient des pièces à conviction. Dans un écrin ouvert, un diadème jetant ses feux, et posé sur des chaises, une robe de soie blanche, robe de mariée avec des fleurs d'oranger jusqu'au bas de sa longue traîne. En coup de vent, sans frapper, survint une personne maigre aux yeux ardents et déçus. Robe noire, grand chapeau noir, d'une simplicité distinguée, sévère, avec pourtant un rien d'extravagance, presque une vieille fille, mais cependant pas encore. Quelque institutrice, cela se devinait, très diplômée, de bonne famille pauvre. « Je l'ai, nous l'avons, chère petite !» dit-elle en français, montant avec un geste de puéril triomphe une lettre non ouverte qu'elle venait de prendre à la poste restante. Et la petite princesse, couchée, répondit dans la même langue, sans le moindre accent étranger, « Non, vrai ? Mais oui, vrai ! De qui voulez-vous que ce soit, enfant, sinon de lui ? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas Aideanum sur cette enveloppe ? Eh bien, hein, si vous avez donné le mot de passe à d'autres, c'est différent. » Mais ça, vous savez que non. Eh bien alors ? La jeune fille s'était redressée, les yeux à présent très ouverts, une lueur rose sur les joues, comme une enfant qui aurait eu un gros chagrin, mais qui on viendrait de donner un jouet si extraordinaire que pour une minute tout s'oublie. Le jouet, c'était la lettre. Elle la retournait dans ses mains, avide de la toucher, mais effrayée en même temps, comme si rien que cela fût un léger crime. Et puis, prête à déchirer l'enveloppe, elle s'arrêta pour supplier avec câlinerie. « Bonne mademoiselle, mignonne mademoiselle, ne vous fâchez pas de ma fantaisie. Je voudrais être toute seule pour la lire. » « Ah, décidément, fait de drôles de petites créatures, il n'y a pas plus drôle que vous, ma chérie. Mais vous me la laisserez voir après tout, de même. C'est le moins que je mérite, il me semble. Alors, soit, je vais aller ôter mon chapeau, ma voilette, et je reviens. » Très drôle de petite créature, en effet, et de plus, étrangement timorée, car il lui parut maintenant que les convenances l'obligeaient à se lever, à se vêtir et à se couvrir les cheveux, avant de décacheter pour la première fois de sa vie une lettre d'homme. Ayant donc passé bien vite une matinée bleu pastel, venue de la rue de la Paix, de chez le Bonfaiseur, puis ayant enveloppé sa tête blonde d'un voile en gaze, brodé jadis en circassie, elle brisa ce cachet toute tremblante. Très courte la lettre, une dizaine de lignes toutes simples, avec un passage imprévu qui la fit sourire, malgré sa déconvenue de ne trouver rien de plus confiant ni de plus profond. Une réponse courtoise et gentille, un remerciement où se laissait entrevoir un peu de lassitude et voilà tout. Mais quand même, la signature était là, bien lisible, bien réelle, André Léry. Ce nom, écrit par cette main, causait à la jeune fille un trouble comme le vertige. Et de même que lui, là-bas, au reçu de l'enveloppe timbrée d'Istanbul, avait eu l'impression que quelque chose commençait, de même, elle, ici, présageait on ne sait quoi de délicieux et de funeste. À cause de cette réponse, arrivée justement un tel jour, la veille du plus grand événement de toute son existence, cet homme qui régnait depuis si longtemps sur ses rêves, cet homme aussi séparé d'elle, aussi inaccessible que si chacun d'eux eût habité une planète différente, venait vraiment d'entrer ce matin-là dans sa vie, du fait de ces seuls quelques mots écrits et signés par lui, pour elle. Et jamais à ce point elle ne s'était sentie prisonnière et révoltée, avide d'indépendance, d'espace, de course par le monde inconnu. un pas vers ses fenêtres où elle s'accoudait souvent pour regarder au dehors. Mais non, là il y avait ces treillages de bois, ces grilles de fer qui l'exaspéraient. Elle rebroussa vers une porte entr'ouverte, écartant d'un coup de pied la traîne de la robe de mariée qui s'étalait sur le somptueux tapis. La porte de son cabinet tout blanc de marbre, plus vaste que la chambre, avec des ouvertures non grillées, très larges, donnant sur le jardin aux platanes de 100 ans. Toujours tenant sa lettre dépliée, c'est à l'une de ses fenêtres qu'elle s'accouda pour voir du ciel libre des arbres la magnificence des premières roses exposer ses joues à la caresse de l'air du soleil. Et pourtant, quel grand mur autour de ce jardin! Pourquoi ces grands murs, comme on en bâtit autour du préau des prisons cellulaires? De distance en distance, des contreforts pour les soutenir, tant ils étaient démesurément grands. Leur hauteur, combinée pour que, des plus hautes maisons voisines, on ne pût jamais apercevoir qui se promènerait dans le jardin enclos. Malgré la tristesse d'un tel enfermement, on l'aimait, ce jardin, parce qu'il était très vieux, avec de la mousse et du lichen sur ses pierres, parce qu'il avait des allées envahies par l'herbe entre leurs bordures de buis, un jet d'eau dans un bassin de marbre à la mode ancienne, et un petit kiosque tout déjeté par le temps pour rêver à l'ombre sous les platanes noueux, tordus, pleins de nids d'oiseaux. Il avait tout cela, ce jardin d'autrefois, et surtout il avait, comme une âme nostalgique et douce, une âme qui peu à peu lui serait venue avec les ans, à force de s'être imprégnée de nostalgie de jeune femme cloîtrée, de nostalgie de jeune beauté doucement captive. Ce matin, 4 ou 5 hommes, des nègres aux figures imberbes, étaient là, en bras de chemise, qui travaillaient à des préparatifs pour la grande journée de demain, l'un tendant un vélum entre des branches, l'autre dépliant par terre d'admirables tapis d'Asie. Ayant aperçu la jeune fille, là-haut, où ils lui adressèrent, après des petits clignements d'œil pleins de sous-entendus, un bonjour à la fois familier et respectueux, qu'elle s'efforça de rendre avec un gai sourire, nullement effarouchée de leur regard. Mais tout à coup, elle se retira avec épouvante, à cause d'un jeune paysan à moustache blonde, venu pour apporter des mannes de fleurs qui avaient presque entrevu son visage. La lettre, elle avait entre les mains une lettre d'André Léry, une vraie. Pour le moment, cela primait tout. La précédente semaine, elle avait commis l'énorme coup de tête de lui écrire, déséquilibrée qu'elle se sentait par la terreur de ce mariage fixé à demain. 4 pages d'innocentes confidences qui lui avaient semblé à elle des choses terribles et pour finir, la prière, la supplication de répondre tout de suite, poste restante, à un nom d'emprunt. Sur l'heure, par crainte d'hésiter en réfléchissant, elle avait expédié cela, un peu au hasard, faute d'adresse précise, avec la complicité par l'intermédiaire de son ancienne institutrice, Mademoiselle Esther Bonneau, Bonneau de Saint-Miron, s'il vous plaît, agrégée de l'université, officier de l'instruction publique, celle qui lui avait appris le français, en y ajoutant même, pour rire, sur la fin de ses cours, un peu d'argot cueilli dans les livres de Jip. Et c'était arrivé à destination, ce cri de détresse d'une petite fille. Et voici que le romancier avait répondu, avec peut-être une nuance de doute et de badinage, mais gentiment en somme. Une lettre qui pouvait être communiquée aux plus narquoises de ses amis, et qui serait pour les rendre jalouses. Alors, tout d'un coup, l'impatience lui vint de la faire lire à ses cousines, pour elles comme des sœurs, qui avaient déclaré qu'ils ne répondaient pas. C'était tout près leur maison, dans le même quartier hautain et solitaire. Elle avait donc, en matinée, sans perdre du temps à faire toilette, et vite, elle appela avec une langueur impérieuse d'enfant qui parle à quelques vieilles servantes gâteaux, à quelques vieilles nourrices. « Daddy !» Daddy, appellation amicale, usitée pour les vieilles servantes ou esclaves, devenues avec le temps comme de la famille. Puis encore et plus vivement, « Daddy !» Habitué sans doute à ce qu'on fût toujours là, prêt à ses caprices, et la daddy, ne venant pas, elle toucha du doigt une sonnerie électrique. Enfin parut cette daddy, plus imprévue encore dans une telle chambre que le verset du Coran brodé en lettres d'or au-dessus du lit. Visage tout noir, tête enveloppée d'un voile lamé d'argent, esclave éthiopienne s'appelant Konjagul, bouton de rose. Et la jeune fille se mit à lui parler dans une langue lointaine, une langue d'Asie, dont s'étonnaient sûrement les tentures et les meubles et les livres. Konjagul, t'es jamais là! Mais c'était dit sur un ton dolent et affectueux, qui atténuait beaucoup le reproche. Un reproche inique, du reste, car Konjagul était déjà toujours là, au contraire, beaucoup trop là, comme un chien fidèle à l'excès. Et la jeune fille souffrait plutôt de cet usage de son pays, qui veut qu'on n'ait jamais de verrou à sa porte, que les servantes de la maison entrent à toute heure, comme chez elle, qu'on ne puisse jamais être assuré d'un instant de solitude. Konjagul, sur la pointe du pied, était bienvenu 20 fois ce matin pour guetter le réveil de sa jeune maîtresse. Et quelle tentation elle avait eue de souffler cette bougie qui brûlait toujours, mais voilà, c'était sur ce bureau où il lui était interdit de jamais porter la main, qui lui semblait plein de dangereux mystères. Et elle avait craint, en éteignant cette petite flamme, d'interrompre quelque envoûtement peut-être. Konjagul, vite mon tchatchaf, j'ai besoin d'aller chez mes cousines. Et Konjagul entreprit d'envelopper l'enfant dans des voiles noirs. Noir, l'espèce de jupe qu'elle posa sur la matinée du bonfaiseur. Noir, la longue pèlerine qu'elle jeta sur les épaules et sur la tête comme un capuchon. Noir, le voile épais retenu au capuchon par des épingles, qu'elle fit retomber jusqu'au bas du visage, afin de le dissimuler comme sous une cagoule. Pendant ses allées et venues pour ensevelir la jeune fille, elle disait les choses en langue asiatique, avec un air de se parler à soi-même ou de se chanter une chanson, des choses enfantines et berceuses, comme ne prenant pas du tout au sérieux la douleur de la petite fiancée. « Il est blond, il est joli, le jeune bey qui va venir demain chercher ma bonne maîtresse, dans le beau palais où il va nous emmener toutes les deux. Oh, comme nous serons contentes !»« Tais-toi, Daddy, 10 fois j'ai défendu qu'on m'en parle !» Et l'instant d'après, « Daddy, tu étais là, tu as dû entendre sa voix le jour qu'il était venu causer avec mon père. Alors, dis, comment est-elle la voix du bey ?» Douce un peu ? Oh oui, douce comme la musique de ton piano, ou comme celle que tu fais avec ta main gauche, tu sais, en allant vers le bout, ça finit. Douce comme ça. Oh, qu'il est blond et qu'il est joli, le joli jeune bey. Allons, tant mieux, interrompit la jeune fille en français, avec l'accent d'une gouaillerie presque tout à fait parisienne. Et elle reprit en langue d'Asie. « Ma grand-mère est-elle levée, sais-tu ?»« Non, non, la dame a dit qu'elle se reposerait tard pour être plus jolie demain. »« Alors à mon réveil, on lui dira que je suis allée chez mes cousines. »« Va prévenir le vieux Ismaël pour qu'il m'accompagne. »« C'est de toi et lui, vous deux que j'emmène. » Cependant, mademoiselle Ernster Bonneau de Saint-Miron, là-haut dans sa chambre, son ancienne chambre du temps où elle habitait ici et qu'elle venait de reprendre pour assister à la solennité de demain, mademoiselle Esther Bonneau avait des inquiétudes de conscience. Ce n'était pas elle, bien entendu, qui avait introduit sur le bureau laqué de blanc le livre de Kant, ni celui de Nietzsche, ni même celui de Baudelaire. Depuis 18 mois que l'éducation de la jeune fille était considérée comme finie, elle avait dû aller s'établir chez un autre pacha pour instruire ses petites filles. Alors seulement sa première élève s'était ainsi émancipée dans ses lectures, n'ayant plus personne pour contrôler sa fantaisie. C'est égal, elle, l'institutrice, se sentait responsable un peu de l'essor déréglé pris par ce jeune esprit. Et puis, cette correspondance avec André Léry, qu'elle avait favorisée, où ça mènerait-il ? Deux êtres, il est vrai, qui ne se verraient jamais. Ça, au moins, pour en être sûr. Les usages et les grilles en répondaient. Mais, cependant, quand elle redescendit enfin, elle se trouva en présence d'une petite personne accommodée en fantôme noir pour la rue, l'air agité, pressé de sortir. « Et où allez-vous, ma petite amie ?»«
Chez mes cousines, leur montrer ça. »
Ça, c'était la lettre.
« Vous venez, vous aussi, naturellement. Nous la lirons là-bas ensemble. »« Alors, trottons-nous. »
« Bon, chez vos cousines, soit, je vais remettre ma voilette et mon chapeau. »«
Oh, votre chapeau, alors nous en avons pour une heure, zut !»«
Ah, voyons, ma petite, voyons. »«
Voyons quoi ? Avec ça, vous ne le dites pas, vous aussi, zut, quand ça vous prend ?»« Zut pour le chapeau, zut pour la voilette, zut pour le jeune bai, zut pour l'avenir. »« Oh, zut pour la vie et la mort, allez, pour tout, zut !»
Mademoiselle Asbonneau, à ce moment, pressentit qu'une crise de larmes était proche, et afin d'amener une diversion, joignit les mains, baissa la tête dans l'attitude consacrée au théâtre pour le remords tragique. « Et songez, dit-elle, que votre malheureuse grand-mère m'a payé entretenu 7 ans pour une éducation pareille. » Le petit fantôme noir éclatant de rire derrière son voile, en un tour de main, coiffa Mademoiselle Bonneau d'une dentelle sur les cheveux et l'entraîna par la taille.
« Moi, que je m'embobeline, il faut bien, c'est la loi, mais vous, qui n'êtes pas obligé, et pour aller à 2 pas, et dans ce quartier où jamais on ne rencontre un chat. »
Elles descendirent l'escalier 4 à 4. Conjagule et le vieux Ismaël, eunuque éthiopien, les attendaient en bas pour leur faire cortège. Koljagul, empaqueté des pieds à la tête dans une soie verte lamée d'argent, l'eunuque s'enroulé dans une redingote noire à l'européenne, qui, sans le fez, lui donnait l'air d'un huissier de campagne. La lourde porte s'ouvrit. Elles se trouvèrent dehors, sur une colline, au clair soleil de 11 heures, devant un bois funéraire planté de cyprès et de tombes aux dorures bourrantes, qui dévalait en pente douce jusqu'à un golfe profond chargé de navires. Et au-delà de ce bras de mer étendu à leurs pieds, au-delà, sur l'autre rive, à demi cachée par les cyprès du bois triste et doux, se profilait haut dans la limpidité du ciel cette silhouette de ville qui était depuis 20 ans la hantise nostalgique d'André Léry. Stamboul trônait ici, non plus vague et crépusculaire comme dans les songes du romancier, mais précis, lumineux et réel. Réel et pourtant baigné comme d'une chimérique brouillard bleu, dans un silence et une splendeur de vision. Stamboul, le Stamboul séculaire était bien ici, tel encore que l'avaient contemplé les vieux califes, tel encore que Soliman le Magnifique en avait jadis conçu et fixé les grandes lignes, en y faisant élever de plus superbes coupoles. Rien ne semblait en ruine de cette profusion de minarets et de dômes groupés dans l'air du matin. Et cependant, il y avait sur tout cela, on ne sait quelle indéfinissable empreinte du temps. Malgré la distance et l'on peu éblouissante lumière, la vétusté s'indiquait extrême. Les yeux ne s'y trompaient point. C'était un fantôme, un majestueux fantôme du passé, cette ville encore debout, avec ses innombrables fuseaux de pierre, si sveltes, si élancées qu'on s'étonnait de leur durée. Minarets et mosquées avaient pris avec les ans des blancheurs déteintes, tournant aux grisailles neutres. Quant à ces milliers de maisons en bois, tassées à leur ombre, elles étaient couleur d'ocre ou de brun rouge, nuances atténuées sous le bleuâtre de la buée presque éternelle que la mer exhale alentour. Et cet ensemble immense se reflétait dans le miroir du golfe. Les deux femmes, celle voilée en fantôme et l'autre avec sa dentelle posée à la diable sur les cheveux, marchaient vite, suivies de leur escorte nègre, regardant à peine ce décor prodigieux qu'était pour elles le décor de tous les jours. Elles suivaient sur cette colline un chemin au pavage en déroute, entre d'anciennes et aristocratiques demeures momifiées derrière leurs grilles, et ce cimetière en pente de Kassim Pacha, qui laissait apercevoir dans l'intervalle de ces arbres sombres la grande féerie d'en face. Les hirondelles, qui avaient partout des nids sous les balcons grillés et clos, chantaient en délire, les cyprès sentaient bon la résine, le vieux sol empli d'eau de mort sentait bon le printemps. En effet, elles ne rencontrèrent personne dans leur courte sortie, personne qu'un porteur d'eau, en costume oriental, venu pour remplir son outre à une très vieille fontaine de marbre qui était sur le chemin, toute sculptée d'exquises arabesques. Dans une maison aux fenêtres grillées sévèrement, une maison de pacha, où un grand diable à moustache, vêtu de rouge et d'or, pistolets à la ceinture, sans souffler mot leur ouvrit le portail. Elles prirent en habitué, sans rien dire non plus, l'escalier du harem. Au premier étage, une vaste pièce blanche, porte ouverte, d'où s'échappaient des voix et des rires de jeunes femmes. On s'amusait à parler français là-dedans, sans doute parce qu'on parlait toilette. Il s'agissait de savoir si certains piquets de roses à un corsage feraient mieux poser comme ceci ou poser comme cela. « C'est bonnet blanc, blanc bonnet !» disait l'une. « C'est kif-kif bourricot !» appuyait une autre, une petite rousse au teint de lait et aux yeux narquois dont l'institutrice avait fréquenté l'Algérie. C'était la chambre de ses cousines, deux sœurs de 16, 20 et 1 an, à qui la mariée de demain avait réservé la primeur de sa lettre d'homme célèbre. Pour les deux jeunes filles, deux lits laqués de blanc, chacun ayant son verset arabe brodé en or sur un panneau de velours appliqué au mur. Par terre, d'autres couchages improvisés, matelas et couvertures de satin bleu ou rose, pour quatre jeunes invités à la fête nuptiale. Sur les chaises, laquais blanc et soie pompadour à petits bouquets, des toilettes pour grand mariage, à peine arrivées de Paris, s'étalaient fraîches et claires. Désordre des veilles de fête, campement, eût-on dit, campement de petites bohémiennes, mais qui seraient élégantes et très riches. La règle musulmane interdisant aux femmes de sortir après le crépuscule, c'est devenu entre elles un gentil usage de s'installer ainsi les unes chez les autres, pendant des jours ou même des semaines, à propos de tout et de rien, quelquefois pour se faire une simple visite, et alors on organise gaiement des dortoirs. Des voiles d'oriental traînaient aussi, çà et là, des parures de fleurs, des bijoux de lalique. Les grilles en fer, les quadrillages en bois aux fenêtres, donnaient un aspect clandestin à tout ce luxe épars, destiné à éblouir ou charmer d'autres femmes, mais que les yeux d'aucun homme portant moustache n'avaient le droit de voir. Et dans un coin, deux négresses esclaves en costume asiatique assises sans façon, se chantaient les airs de leur pays, scandés sur un petit tambourin qu'elles tapaient en sourdine. Nos farouches démocrates d'Occident pourraient venir prendre des leçons de fraternité dans ce pays débonnaire qui ne reconnaît en pratique ni caste ni distinction sociale et où les plus humbles serviteurs ou servantes sont toujours traités comme gens de la famille. L'entrée de la mariée fit sensation et stupeur. On ne l'attendait point ce matin-là. Qui pouvait l'amener ? Toute noire dans son costume de drue, combien elle paraissait mystérieuse et lugubre au milieu de ses blancs, de ses roses, de ses bleus pâles, des soies et de mousseline. Mais qu'est-ce qu'elle venait faire comme ça, à l'improviste, chez ces demoiselles d'honneur? Elle releva son voile de deuil, découvrit son fin visage et, d'un petit ton détaché, répondit en français, qui était décidément une langue familière au harem de Constantinople, « Une lettre que je venais vous communiquer. De qui la lettre? Ah, devinez? Ah, de la tante d'Andrinople, je parie, qui t'annonce une parure de brillant. Oh non! De la tante d'Erivan, qui t'envoie une paire de chats angora pour ton cadeau de noces? Non plus. C'est d'une personne étrangère. C'est d'un monsieur. Oh, un monsieur! Quelle horreur! Ah, monsieur, au petit monstre que tu es !» Et comme elle tendait sa lettre, contente de son effet, deux ou trois jolies têtes blondes, du blond vrai et du blond faux, se précipitèrent ensemble pour voir tout de suite la signature. André Léry. « Non ! Alors il a répondu, c'est de lui ? Oh, pas possible !» Tout ce petit monde avait été mis dans la confidence de la lettre écrite au romancier. Chez les femmes turques d'aujourd'hui, il y a une telle solidarité de révolte contre le régime sévère des harems qu'elles ne se trahissent jamais entre elles. Le manquement fut-il grave, au lieu d'être innocent comme cette fois, ce serait toujours même discrétion, même silence. On se serra pour lire ensemble, cheveux contre cheveux, y compris Mademoiselle Bonneau de Saint-Miron, en se tiraillant le papier. À la troisième phrase, on éclata de rire. « Oh, t'as vu? Il prétend que t'es pas turc. Impayable, par exemple. Il y connaît même si bien, paraît-il, que le voilà tout à fait sûr que non. Eh, mais c'est un succès, ça, ma chère, lui dit Zineb, l'aînée des cousines. Ça prouve que le piquant de ton esprit, l'élégance de ton style. Mais un succès, contesta la petite Rousseau, nez en l'air, au minois toujours comiquement moqueur. Un succès, si c'est ce qui te prend pour une perrotte, merci de ce succès-là. Il fallait entendre, comme il était dit, ce mot perrotte, habitant du quartier de Péra. Rien que dans la façon de le prononcer, elle avait mis tout son dédain de petite fille d'ossements lisses pour les levantins ou levantines, dont le perrotte représente le prototype. Tout en me rangeant à l'avis des ossements lisses sur la généralité des perrottes, je reconnais avoir rencontré parmi eux d'aimables exceptions, des hommes parfaitement distingués et respectables, des femmes qui seraient trouvées exquises dans n'importe quel pays et quel monde. Note de l'auteur. Ce pauvre Léry, ajouta Kérimée, l'une des jeunes invitées, y retarde. Il en est sûrement resté à la Turquie des romans de 1830. Narguilé, confiture et divan tout le jour. Ou même simplement, reprit Meilek, la petite rousse au bout de nez narquois, simplement à la Turque du temps de sa jeunesse. C'est qu'il doit commencer à être marqué, tu sais, ton poète. C'était pourtant vrai, d'une vérité incontestable, qui ne pouvait plus être jeune à André Léry. Et pour la première fois, cette constatation s'imposait à l'esprit de sa petite amoureuse inconnue, qui n'avait jamais pensé à cela. Constatation plutôt décevante, dérangeant son rêve, voilant de mélancolie son culte pour lui. Malgré leurs airs de sourire et de railler, elles l'aimaient toutes, cet homme lointain et presque impersonnel. Toutes celles qui étaient là, elles l'aimaient pour avoir parlé avec amour de leur Turquie et avec respect de leur islam. Une lettre de lui écrite à l'une d'elles était un événement dans leur vie cloîtrée, où jusqu'à la grande catastrophe foudroyante du mariage, jamais rien ne se passe. On la relut à haute voix. Chacune désira toucher ce carré de papier où sa main s'était posée. Et puis, étant toutes graphologues, elles entreprirent de sonder le mystère de l'écriture. Mais une maman survint, la maman des deux sœurs, et vite, avec un changement de conversation, la lettre disparut, escamotée. Non pas qu'elle fût bien sévère, cette maman-là, au si calme visage, mais elle aurait grondé tout de même, et surtout n'eût pas su comprendre. Elle était d'une autre génération, parlant peu le français, n'ayant lu qu'Alexandre Dumas père. Entre elle et ses filles, un abîme s'était creusé, de 2 siècles au moins, tant les choses marchent vite dans la Turquie d'aujourd'hui. Physiquement même, elle ne le ressemblait pas. Ses beaux yeux reflétaient une paix un peu naïve qui ne se retrouvait point dans le regard des admiratrices d'André Léry. C'est qu'elle avait bordé son rôle terrestre à être une tendre mère et une épouse impeccable, sans en chercher plus. D'ailleurs, elle s'habillait mal en européenne et portait gauchement encore des robes trop surchargées, quand ses enfants, au contraire, savaient déjà être si élégantes et fines dans des étoffes très simples. Maintenant, ce fut l'institutrice française de la maison qui fit son entrée. Genre Esther Bonneau, en plus jeune, en plus romanesque encore. Et comme la chambre était vraiment trop encombrée, avec tant de monde de robes jetées sur les chaises et de matelas par terre, on passa dans une plus grande pièce voisine, modern style, qui était le salon du harem. Surgit alors, sans frapper, par la porte toujours ouverte, une grosse dame allemande à lunettes, en chapeau lourdement empanaché, amenant par la main Farel Nissa, la plus jeune des invitées. Et dans le cercle des jeunes filles, aussitôt on se mit parler allemand, avec la même aisance que tout à l'heure pour le français. C'était le professeur de musique, cette grosse dame-là, et d'ailleurs une femme de talent incontestable. Avec Farel Nissa, qui jouait déjà en artiste, elle venait de répéter à 2 pianos un nouvel arrangement des fugues de Bach et chacune y avait mis toute son âme. On parlait allemand, mais sans plus de peine, on eût parlé italien ou anglais. Car ces petites turques lisaient Dante ou Byron ou Shakespeare dans le texte original. Plus cultivées que ne le sont chez nous la moyenne des jeunes filles du même monde. À cause de la séquestration sans doute et des longues soirées solitaires, elles dévoraient les classiques anciens et les grands détraqués modernes. En musique, se passionnait pour Gluck aussi bien que pour César Franck ou Wagner, et déchiffrait les partitions de Vincent d'Indy. Peut-être aussi bénéficiait-elle des longues tranquillités et somnolences mentales de leurs ascendantes. Dans leur cerveau, composé de manière neuve ou longtemps reposé, tout germait à miracle, comme en terrain vierge, les hautes herbes folles et les jolies fleurs vénéneuses. Le salon du Haremlik, ce matin-là, s'emplissait toujours. Les deux négresses avaient suivi avec leur petit tambourin. Après elle, une vieille dame entra, devant qui toutes se levèrent par respect, la grand-mère. On se mit alors à parler turc, car elle n'entendait rien aux langues occidentales. Et ce qu'elle se souciait d'André Léry, cet aïeul, sa robe brodée d'argent était de mode ancienne et un voile de circassie enveloppait sa chevelure blanche. Entre elle et ses petites filles, l'abîme d'incompréhension demeurait absolument insondable. et pendant les repas, plus d'une fois lui rêvait-il de les scandaliser par l'habitude qu'elle avait conservée de manger le riz avec ses doigts, comme les ancêtres. Ce que faisant, elle restait grande dame quand même, grande dame jusqu'au bout des ongles, et imposante à tous. Donc on s'était mis à parler turc par déférence pour l'aïeul, et subitement le murmure des voix était devenu plus harmonieux, doux comme de la musique. Parut maintenant une femme, svelte et ondoyante, qui arrivait du dehors et ressemblait bien entendu à un fantôme tout noir. C'était Halimé à Nîmes, professeur agrégé de philosophie au lycée de jeunes filles, fondée par sa majesté impériale, le sultan. D'habitude, elle venait trois fois par semaine enseigner à Melek la littérature arabe et persane. Il va sans dire, pas de leçon aujourd'hui, veille de mariage, jour où les cervelles étaient à l'envers. Mais quand il y relevait son voile en cagoule et montrait sa jolie figure grave, la conversation tomba sur les vieux poètes de l'Iran, et Mélègue, devenue sérieuse, récita un passage du Pays des Roses de Saadi. Aucune trace d'odalisque, ni de narguilé, ni de confiture dans ce harem de Pacha, composé de la grand-mère, de la mère, des filles et des nièces, avec leurs institutrices. Du reste, à part deux ou trois exceptions peut-être, tous les harems de Constantinople ressemblent à celui-ci. Le harem de nos jours, c'est tout simplement la partie féminine d'une famille constituée comme chez nous et éduquée comme chez nous, sauf la claustration, sauf les voiles épars pour la rue et l'impossibilité d'échanger une pensée avec un homme, si n'est le père, le mari, le frère, ou quelquefois par tolérance le cousin très proche avec qui l'on a joué étant enfant. On avait recommencé de parler français, de discuter toilette, quand une voix humaine, si limpide qu'on eût dit une voix céleste, tout à coup vibra dehors, comme tombant du haut de l'air. L'imam de la plus voisine mosquée appelait du haut du minaret les fidèles à la prière méridienne. Alors la petite fiancée, se rappelant que sa grand-mère déjeunait à midi, s'échappa comme Cendrillon avec Mademoiselle Bonneau, encore plus effarée qu'elle à l'idée que la vieille dame pourrait attendre.